C'est bon.
C'est bon, alors je recommence. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager sur le fait de laisser Dieu travailler nos cœurs et préparer nos cœurs pour entrer vraiment dans une saison où on va vivre de grandes choses. Et en fait, dans la Bible, on voit que Dieu a choisi son peuple, le peuple d'Israël, et que donc il a été, on vous rappelez, donc on a célébré la Pâque, c'est vraiment aussi, on a vécu en particulier avec ce coronavirus un peu le parallèle avec ce que vivait déjà le peuple d'Israël en Égypte, où il y avait déjà les plaies, où ils ont vraiment vécu comme voilà, c'est cette plaie qui est les plaies de que Dieu a envoyé qui était là, et comme si Dieu donc appelle son peuple à être libéré de l'esclavage dans le but de le faire entrer dans ce pays promis. Et je voulais vraiment partager ce matin sur vraiment tout le processus par lequel Dieu a fait passer le peuple d'Israël entre cette libération du temps d'esclavage jusqu'à l'entrée dans ce pays promis. Parce qu'il y a tout un laps de temps où en fait on voit que Dieu en fait prépare son peuple, il prépare son cœur, il fait des choses dans les cœurs. Et je sentais vraiment que cette période dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est un peu ça, ce confinement, ce qu'on vit avec ce virus. C'est un peu comme si on était dans cette même période où on est sorti on a été libéré, je dirais, de l'Égypte, entre guillemets, en transition dans ce temps dans le désert, en route vers cette terre promise que Dieu a promis de nous donner, en route vers ces nouveaux territoires, vers ces belles choses, où Dieu dit c'est dans le peuple d'Égypte, donc le pays de Canaan, il dit que c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays merveilleux, il y a énormément de beauté, il y a des choses que Dieu veut, dans lesquelles Dieu veut nous faire rentrer, je pense, et qui sont vraiment nécessaires pour nous en amont, je dirais, de passer par un petit processus. Donc en fait, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. Alors, mon premier point un peu, c'est vraiment ce côté la libération, je dirais, à la délivrance. Donc, en fait, quand on voit, donc vous avez compris, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pendant environ 400 ans. Et donc, Dieu appelle Moïse à libérer son peuple. Donc, Pharaon accepte au bout d'un certain temps, au bout des... Voilà, il accepte, il dit, ok, c'est bon, partez, vous êtes libres. Voilà. Mais au bout d'un petit moment, Pharaon, en fin de compte, change d'avis. Il se dit, en fin de compte, j'aurais pas dû les laisser partir, j'aurais pas dû laisser partir mon peuple. Et lui-même, il reprend une armée avec lui, il monte sur leur char et ils repartent à la poursuite du peuple d'Israël. Et voilà qu'est-ce qu'on lit donc dans Exode 14, versets 10 à 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et je trouve que déjà ce passage est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même esclaves, ils étaient quand même maltraités, malmenés. Dieu les a libérés de manière incroyable. Et à peine arrive une difficulté où ils voient Pharaon les poursuivre, ils disent, ah non, mais en fin de compte, on a trop peur. En fait, on était mieux en Égypte, on veut retourner là-bas. En fait, en fin de compte, c'est comme s'ils regrettent ce temps là-bas, alors qu'ils oublient qu'en fait là-bas, non, ils n'étaient pas bien, c'était pas fait pour eux. Mais voilà, d'un coup, ils culpabilisent Moïse, ils en veulent à Dieu, et on voit vraiment ce regret-là. Et en fait, dans la Pâque juive, si on célèbre, donc on a des amis qui sont voilà, juifs, quand on célèbre la Pâque juive, ils prennent plusieurs coupes de vin, et il y a une des coupes qui en fait signifie c'est la coupe de la libération, c'est-à-dire qu'ils célèbrent le fait que le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte. Et il y a une autre coupe, c'est la coupe de la délivrance. Et il y a un laps de temps entre deux, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a été libéré, mais se comporte encore comme des esclaves en Israël, dans le désert, enfin des esclaves d'Égypte, mais dans le désert. Et en fait, Dieu les appelle à la délivrance. Et tant qu'ils n'auront pas passé ce cap de la délivrance, ils ne seront pas prêts, ils ne pourront pas rentrer dans le pays que Dieu leur a promis. Et il y a vraiment cet encouragement, je vois, où Dieu nous appelle à passer ces caps-là. Dans certains domaines, c'est comme si on peut comparer cette histoire, la sortie du pays d'Égypte, à nous, ce que nous vivons dans nos vies. C'est un peu comme si ce confinement-là, avec ce virus, nous sommes confinés, nous sommes un peu retirés dans un temps de désert. C'est comme si Dieu nous a sortis de notre Égypte, sortis de certaines choses dans lesquelles nous étions. Ça peut être notre routine, nos habitudes, certaines, voilà, des façons de faire, des comportements qu'on avait l'habitude de faire. Voilà, on était dans cette routine, on construit des briques, comme ce qu'ils faisaient en Égypte. Mais Dieu nous a sortis de là pour parler à notre cœur, dans le but vraiment de changer. Parce que Dieu savait que le peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer dans le pays promis s'il n'était pas totalement libre de ces choses-là. Et tant qu'il ne se comporte pas en tant qu'enfant libre, enfant totalement délivré, en tant que peuple libre du Dieu vivant, il ne peut pas hériter les promesses que Dieu a faites à son égard. Et donc, pour résumer, donc, ce temps de désert pour le peuple d'Israël a duré 40 ans. C'est-à-dire pendant 40 ans, le peuple d'Israël s'est plaint. Il y a tout un temps où ils obéissent à Dieu. Ah oui, en fin de compte, on veut te suivre. Puis en fin de compte, ils se redésobéissent. Ah oui, Jésus, Dieu, on te fait confiance. Ah, mais en fin de compte, ils se retombent à chaque fois. Et jusqu'à ce qu'au bout de 40 ans, enfin, ils seront enfin prêts à passer le cap. Et j'avais vraiment cet encouragement de profiter. Donc, j'en avais un peu parlé dans ma petite vidéo, dans la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment. Mais dans la Bible, vraiment, le désert, c'est souvent l'endroit où Dieu attire des gens dans le désert. C'est un endroit où on est un peu éprouvé, malheureusement, mais c'est un endroit où Dieu veut parler à notre cœur. Et je sens vraiment que c'est un temps dans nos vies où Dieu veut nous parler personnellement. Et de vraiment chercher Dieu, chercher sa face, lui demander qu'il vous amène, qu'il vous libère des choses qui peuvent vous rendre captifs dans vos vies pour être totalement libre et être totalement prêt et équipé à passer le Jourdain et à rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Et en fait, ces promesses-là, donc dans la Bible, c'est le pays donc il parle du pays promis. Et nous, c'est un peu les promesses que Dieu a faites à nous personnellement. Ça peut être individuellement, ça peut être aussi collectivement. Ça peut être des prophéties que vous avez reçues. Ça peut être un appel, l'appel que Dieu a sur vos vies. Chacun, je pense que chacun a un appel particulier. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu a besoin de nous préparer pour qu'on rentre dans ces moments-là, pour qu'on puisse rentrer pleinement dans notre appel, pour qu'on puisse vraiment vivre collectivement des choses grandioses. La manière dont Josué va conquérir le pays promis est juste incroyable. C'est-à-dire que Dieu est là du début à la fin. C'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui fait des exploits, des prodiges, des miracles. Mais il redit bien à Josué à chaque fois, avant, préparez-vous. Et donc, je vous encourage vraiment à vivre ça, à sortir vraiment de tout ce qui nous rend captifs dans nos vies, à vraiment passer un temps avec Dieu et demander qu'est-ce qui ne va pas. Nous, franchement, ce confinement, le Seigneur m'a travaillé dans plein de domaines. Des fois, je me suis rendu compte des choses qui me rendaient un peu captive. Je me rendais compte que des fois, on peut dans notre cocon quotidien, on a une maison, on aimerait avancer dans une maison, du coup, j'essaie de, il faut que j'achète ça, peut-être qu'il faut qu'on voit ça, et en fait, je me suis rendu compte, c'est quelque chose qui, sans m'en rendre compte, me rendait captive et m'empêchait de vivre, de voir certaines choses plus loin, m'empêchait de, à ce que Dieu prenne totalement mes pensées, à ce que Dieu prenne mon temps total, et je dis pas que je dois pas, qu'on ne doit pas avancer dans une maison, il faut, et j'ai vraiment ce désir-là, mais que ça ne soit pas, que ça ne me tienne pas libre, que ça ne tienne pas nos mains, nos bras, que ça ne nous tienne pas captifs, pardon. Donc, si on continue dans le passage, donc, au final, le peuple d'Israël donc, a désobéi, Moïse avec, et donc, du coup, l'Éternel dit, à Moïse, tu ne pourras pas, ce n'est pas toi qui rentreras dans le pays promis. Je te ferai voir le pays promis, mais ce n'est pas toi qui y rentreras. Et du coup, l'Éternel donc, va choisir Josué pour entrer pleinement dans le pays promis. Et une des premières choses que l'Éternel dit à Josué, donc on lit dans Josué 1, verset 5 à 9, « Fortifie-toi et prends courage, donc il parle à Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et Dieu ne promet pas que ce pays dans lequel ils vont rentrer est sans géant, ils vont devoir conquérir le territoire, il y aura des batailles, il y aura des difficultés, mais Dieu dit ne te détourne ni à droite ni à gauche de tout ce que je te dis. Il y a vraiment ce côté, Dieu l'appelle à une obéissance totale, à vraiment un refus du compromis. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut peut-être remettre à la page dans nos vies, de vraiment nous réunir avec ce qu'il veut et que vraiment on arrive dans des, dans une saison, dans un temps où on ne peut plus voir la vie en gris, c'est où oui, on peut faire un petit peu ça, ça n'a pas trop changé ma vie. Oh, écoute, j'ai fait ça, mais bon, merci Seigneur, tu me pardonnes. Oui, Dieu nous pardonne, mais Dieu il veut aussi un changement de notre cœur. Et je pense que Dieu a aussi besoin, on rentre dans des moments où c'est ou noir ou blanc. Dieu a besoin de cœur entièrement consacré, entièrement à lui. Et si on continue dans Josué 3, verset 5, une des premières choses que Josué donc, va dire au peuple, alors qu'ils sont sur le point de traverser le fleuve du Jourdain, donc il y a le pays promis juste derrière, et Josué va leur dire, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc on a cette promesse que c'est l'Éternel qui va faire des prodiges au milieu d'eux, c'est l'Éternel qui leur donne ce pays, c'est l'Éternel qui va combattre pour eux, mais c'est associé à ce commandement, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et ça, ça m'a vraiment parlé, ce côté, Dieu, il pourrait faire tout ce qu'il veut, il est tout puissant, il n'est pas obligé de nous utiliser, mais il a choisi de nous utiliser quand même, il a choisi d'utiliser ses enfants pour faire voir sa gloire. Mais nous aussi, notre rôle, c'est de vouloir être partenaire avec lui et d'accepter de nous laisser sanctifier par lui, nous laisser purifier. Matthieu 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et dans le psaume 24, on dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Et je pense que dans ce temps de désert, c'est comme si le peuple d'Israël avait vraiment été éprouvé, émondé. Mais du coup, le but, c'est quoi ? C'est qu'il se rapproche encore plus de Dieu. Et en fait, si, comme dans Jean 15, ou la parabole où la parabole des sarments, où en fait Dieu dit que nous sommes, en fait Jésus est le cep, le Père, Dieu le Père, c'est le vigneron, et en fait il a besoin de émonder, il a besoin de couper les sarments pour qu'on porte encore plus de fruits. Sinon les sarments ils peuvent s'allonger, mais s'il nous émonde, s'il nous coupe, ça nous rapproche du cep, ça nous rapproche de Jésus-Christ, parce que c'est que en lui qu'on peut faire de grandes choses, c'est que en lui qu'on pourra avoir la victoire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est vraiment juste un encouragement dans ce premier point à revenir aux choses essentielles, à ne pas être un peuple qui est juste libéré, mais un peuple qui est totalement délivré, à ne plus nous comporter comme des esclaves alors qu'on est libre, mais vraiment à nous comporter comme des hommes libres et des femmes libres, totalement libres et délivrés. Et cela passe forcément que par la repentance, pas vraiment ce fait de voilà, je reconnais Seigneur que j'ai péché dans ce domaine-là, je veux m'en débarrasser et je choisis vraiment de changer de comportement. Et moi j'avais l'image un peu de ce côté, en préparant ce message aussi, j'avais l'image d'une voiture neuve, comme si quand on donne notre vie à Christ, c'est comme si Dieu nous donnait une voiture flambant neuve, qui marche super bien, une belle, vous imaginez chacun la voiture que vous voulez, une belle BM, décapotable. Voilà, trop bien, qui peut parcourir des kilomètres, qui peut vraiment faire une course. Et il nous donne la voiture neuve, et en plus, on a tout, on a le service illimité, entretien illimité, gratuit, 24 heures sur 24, dès qu'il y a une ampoule qui casse, on peut aller la faire réparer, dès qu'il y a les pneus qui lâchent, on peut y aller. Et Dieu nous donne cette voiture, c'est comme si, voilà, c'est nous, neuf, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité après de faire cet entretien-là, d'amener la voiture chez le garagiste. De quand il y a un problème, de le changer. Quand il y a quelque chose qui empêche la voiture d'avancer plus vite, c'est à nous de faire les réparations, enfin d'amener pour qu'elle fasse les réparations. Et parce qu'on a une course à courir, Dieu vraiment nous appelle à avancer et à saisir les promesses qu'il a pour nous. Mais pour ça, ben, on a besoin d'être en bon état, entre guillemets. Pour ça, Dieu ne... Enfin, je suis désolée, mais qui prendrait une vieille 4L qui ne roule pas pour faire une course ? Entre ça et une Formule 1 flambant neuf qui a le moteur qu'il faut, les pneus qu'il faut. Voilà, et donc c'est vraiment un encouragement à nous laisser vraiment purifier par Christ. Et j'avais aussi cette image-là, les beaux jours arrivent. Et en fait, peut-être certains, vous avez une piscine ou quoi. Et donc en fait, on remplit l'eau de la piscine, l'eau du robinet, elle est pure, elle est neuve, elle est magnifique. Mais si on ne met pas cet entretien, le chlore pour l'entretien quotidien, la piscine va forcément finir par se souiller, il va y avoir des choses qui vont arriver dedans. Et c'est comme si des fois on laisse un peu la vie souille un peu notre piscine, il y a des feuilles qui tombent, il y a des. Voilà. Et de temps en temps, on a besoin d'un petit chlore-choc. C'est vraiment d'un petit chlore-choc pour juste redynamiser tout ça, reclarifier tout ça, pour pouvoir vraiment utiliser cette piscine de manière plus agréable. Donc, c'était le premier point vraiment que j'avais à cœur. Voilà, c'est de, vraiment de passer de la libération à la délivrance. Et deuxième point qu'on voit, donc dans le. Toujours, je continue avec le peuple d'Israël. C'est vraiment un parallèle extrêmement fort, je trouve, dans ce qu'ils ont vécu et ce que nous, on vit dans, aujourd'hui. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Et donc, on voit que. Donc, ça y est, donc Moïse meurt dans le désert avec toute une génération du peuple d'Israël qui a désobéi à Christ, qui a désobéi à Dieu, tout simplement, à l'Éternel. Donc, ils ne peuvent pas voir le pays promis. Donc, c'est Josué qui se trouve cette fois-ci donc, devant le fleuve du Jourdain et le pays promis est juste de l'autre côté. Et pendant toute cette traversée, pendant à partir du moment où Dieu a libéré son peuple d'Israël, vous le savez, le peuple était guidé par une nuée. C'est comme si ça représentait donc la présence de Dieu qui vraiment les menait dans tout le désert. Et ils avaient à cette époque-là l'Arche de l'Alliance qui s'appelle. C'est ce qui représente dans le Nouveau Testament le lieu où demeure la présence de Dieu. Donc, c'était un coffre symbolique qui, en fait, si vous et moi osions toucher ce coffre sans s'être préparé, sans s'être purifié par un certain nombre de sacrifices et tout ça, on mourrait parce que c'est un coffre qui, la présence de Dieu est tellement sainte et tellement forte qu'on ne peut pas juste l'approcher comme ça. Et en fait, l'Arche de l'Alliance, c'est ce qui va aussi guider un peu le peuple d'Israël. Et Josué 3, verset 4, nous dit « Josué donna cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. » Donc l'Éternel demande de suivre tout le peuple doit suivre l'Arche de l'Alliance qui représente donc la présence de Dieu. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par là. Et la présence de Dieu, c'est vraiment, surtout, je dirais encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est vraiment le seul moyen, c'est vraiment la seule chose qui va vraiment nous guider, nous conduire. Dans ce confinement, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas, voilà, l'avenir, l'économie, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas grand-chose. Mais la présence de Dieu, c'est elle qui va nous conduire. C'est elle qui va nous montrer quel choix faire, comment le faire. Et juste en la suivant, on n'a pas forcément besoin de savoir où on va aller très loin. On a besoin de suivre cette présence. Et forcément, le chemin va être tracé devant nous. Donc, la présence de Dieu nous guide et vraiment nous appelle à faire vraiment confiance, une confiance totale en Dieu. Dans Josué 3, verset 15 à 17, on lit aussi « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. » Donc, cette fois-ci, ils sont prêts à traverser le Jourdain. Et les sacrificateurs portaient l'Arche de l'Alliance. Et les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, alors d'autres versions qui disent à peine leurs pieds touchèrent l'eau, le Jourdain, qui regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, les eaux descendent d'en haut, s'arrêtèrent et s'élevèrent en un mur. Donc, à partir du moment où l'Arche de l'Alliance, ceux qui portaient l'Arche de l'Alliance ont touché l'eau, le fleuve s'est ouvert en deux. Il y a eu un mur d'eau d'un côté. Donc, c'est le verre en un monceau et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. C'est-à-dire que la présence de Dieu, c'est vraiment elle qui va ouvrir la voie au miracle. C'est vraiment elle qui juste ouvre ce fleuve en deux. Et si on continue, le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et au verset 17, on voit les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance s'arrêtèrent de pied ferme, sur le sec, au milieu du Jourdain. Donc, c'est-à-dire que ceux qui portent l'Arche, Dieu leur a demandé de s'arrêter en plein milieu du fleuve, alors que les eaux sont ouvertes en deux. Et pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Et Josué leur a bien donné cet ordre. Donc, dès que vous arrivez, mis les pieds dans l'eau, et que vous êtes dans l'endroit sec, arrêtez-vous là. Et c'est vraiment encore un encouragement. La présence de Dieu, c'est elle aussi qui soutient le miracle. C'est elle qui, non seulement elle ouvre la voie au miracle, mais en plus, c'est elle qui maintient. Tant que l'Arche de l'Alliance était dans le fleuve était ouvert. À partir du moment où ils sont sortis, le fleuve s'est refermé. Et il y a vraiment, je sens vraiment un appel dans ces temps particuliers de vraiment demeurer dans la présence de Dieu, de vivre vraiment avec cette conscience continuelle de la présence de Dieu à nos côtés tous les jours, de vraiment chercher sa face. Il y a ce verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est pas quelque chose, c'est pas juste une option, c'est pas juste un… nous, on l'a vécu même pendant ce temps de confinement. C'est comme si, il y a des jours où on est trop accaparé par les tâches du quotidien, c'est comme si on sent qu'il y a quelque chose qui vient se refermer sur nos petites oreilles spirituelles. Et c'est comme si, non, c'est à nous de suite, on dit, on reproclame qui est Dieu, on se remet dans une position d'adoration quand on fait des choses, quand on fait la vaisselle. Et c'est comme si d'un coup, on sent que tout s'élargit. Du coup, les révélations reviennent. Du coup, les enfants sont mieux. Du coup, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Parce que la présence de Dieu change les choses. Et la présence de Dieu ouvre la voie au miracle. Et en effet, c'est vraiment un encouragement. En fait, il n'y a pas de raccourci avec l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste… C'est comme quand on a un conjoint, on ne peut pas juste lui dire « Allez, j'aimerais trop qu'on s'accomplisse là, j'aimerais trop… » Non, ça ne marche pas comme ça. Si on veut vraiment demeurer dans la présence de Dieu, si on veut vraiment être complice avec Dieu, vraiment vivre les choses avec lui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'intentionnalité. Il faut faire des choix, des petits choix quotidiens, des petits choix réguliers, mais c'est ça qui va construire, c'est ça qui va faire qu'on verra une évolution durable et que du coup, l'ambiance générale va changer autour de nous, dans nos foyers, et ça va laisser la place, ça ouvre la voie au miraculeux, ça ouvre la voie au prodige, et ça prépare nos cœurs à ce que Dieu veut faire. Et comme autre point, quand on continue dans le passage, on voit que donc ça y est, donc le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. Donc ça y est, ils sont juste en face de ce pays promis, merveilleux. Et donc on pourrait se dire, ça y est, c'est bon, ils peuvent y aller. Et il manque encore une chose. Et Josué, dans Josué 5, verset 2, on voit en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Alors, avant de passer Jourdain, il leur a dit, purifiez-vous, car Dieu va faire des exploits. Et après, il leur dit encore de circoncire encore les enfants d'Israël. On se dit, c'est quand même pas mal, hein, mais là, il appuie quand même, on comprend que Dieu veut faire des choses avec eux, mais qu'il y a besoin vraiment d'être totalement consacré. Il y a encore cette notion-là. Et en fait, donc, il a écrit une seconde fois. Donc, ce n'est pas qu'ils ont été circoncis une première fois et qu'ils vont devoir être circoncis deux fois. C'est plus qu'ils ont été circoncis, ils étaient circoncis lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, mais tout le peuple qui a été libéré d'Égypte est mort dans le désert puisqu'il a désobéi, ils ont tourné en rond, ils n'ont pas vraiment choisi d'être totalement consacrés à Christ. Et donc, tout ce peuple-là est mort. Et donc, c'est la nouvelle génération qui est venue qui n'avait même pas été circoncis. Et donc, du coup… là, l'Éternel leur demande maintenant circoncis de nouveau les enfants. Et la circoncision, c'était donc un symbole pour le peuple d'Israël, le symbole vraiment d'appartenance à Dieu, vraiment de ce côté être un peuple mis à part pour Dieu. C'est le symbole de l'alliance vraiment de Dieu avec son peuple. Et Dieu a vraiment besoin aussi que nos cœurs soient entièrement consacrés à lui. C'est-à-dire qu'on soit vraiment un peuple mis à part, qu'il n'y ait plus de compromis, on ne peut pas servir et Dieu et maman, on doit servir Dieu ou rien d'autre, quoi. Et en fait, c'est encore un appel là à nous, à être totalement consacrés à Dieu, à vraiment aller dans des nouvelles profondeurs, dans notre relation avec Dieu, à vraiment revenir à notre premier amour, à vraiment faire ce choix à nouveau, c'est Christ, c'est vers lui que je veux aller, c'est lui que je veux servir. Et j'ai vraiment été travaillée par ces versets, donc dans Apocalypse 3, versets 14 à 16, qui nous dit, voici ce que dit le Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc, voici ce que nous dit l'Éternel. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est quand même particulièrement fort, je trouve, comme verset. Et à la fois, c'est aussi ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être tiède, on ne peut plus servir Dieu, oui, quand on le sent, lui donner une partie de notre vie dans certains domaines, et dans d'autres, là, je garde un peu le contrôle. Non, c'est là, ce pays promis, ces promesses que Dieu a faites pour nous, ces projets qu'il nous a mis dans nos cœurs, toutes ces choses qu'il veut dans lesquelles on entre, si nous ne sommes pas bouillants, on ne pourra pas le conquérir. Parce qu'en fait, Josué, ça a été un peu la désillusion du peuple de Dieu. En fait, ils se pensaient que ce pays, ben, ils arriveraient, oh là là, ça y est, c'est comme une place de camping, tout est réservé, on arrive, on s'installe là. Pas du tout. Il y avait encore des villes à conquérir, il y avait des géants, il y avait des choses. Et en fait, ils avaient besoin, Dieu savait qu'il fallait que leur cœur soit entièrement prêt, entièrement consacré à lui, entièrement purifié pour pouvoir chasser tous les géants de ce pays, pour pouvoir conquérir ce territoire. En fait, ce n'était pas juste une place de camping. C'était vraiment, en fait, c'est comme une jungle. Il fallait sortir les armes et hop, se faire une place, enlever tout ce qui gêne. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nos cœurs entiers. Et en fait, c'est vraiment, vraiment juste cet encouragement-là et cet appel-là que je sens vraiment que Dieu nous dit en ce moment. C'est que dans toute la vie de Josué, on sent que Dieu est fidèle. C'est un Dieu de fidélité dans ses promesses. Et il nous fait rentrer dans ses promesses. On voit que c'est dans ce pays promis. Je ne vais pas le développer là, ça une autre fois. Mais on voit que c'est Dieu qui va lui-même faire les miracles de sa propre main. C'est juste incroyable. Mais par contre, c'est en partenariat avec des cœurs qui sont totalement à lui, avec une obéissance totale, avec un refus de compromis, avec une totale confiance en lui. Et ça, c'est la part que doit jouer Josué et son peuple. Et ça, il n'y a qu'une chose, c'est pas à Dieu de le faire, c'est à nous. Il nous a tout donné par vraiment le fait qu'il ait donné son fils à la croix, nous avons libre accès au Père, nous avons libre accès à pouvoir vraiment nous laisser donner tout ce qui nous pèse dans nos vies, tous ces péchés récurrents, toutes ces choses dans lesquelles nous sommes enlisés, qui nous tiennent captifs. Dieu nous a tout donné, mais c'est à nous de faire ce pas-là. C'est à nous de choisir d'aller au trône de la grâce et d'être revêtu vraiment de cette grâce, revêtu de ces vêtements blancs. Et ça, c'est un travail, ça, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas Dieu qui peut le faire à notre place. Il nous a tout donné, il nous a donné cette belle BM, mais c'est à nous de la faire entretenir et c'est à nous vraiment d'aller vers la croix pour ça. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai à cœur parce que je pense vraiment qu'on rentre dans une nouvelle ère, vraiment, où Dieu va faire des exploits, va faire des prodiges. Vraiment, on le voit dans la Bible. Je crois que c'était même une poétique qui avait parlé de ça. Tous les temps de désert, tous les temps après, il y a comme de confinement. Il y a un temps où Dieu manifeste sa puissance d'une manière particulière, surnaturelle. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'on va vivre aussi. Et on a besoin de nous laisser purifier par Christ dans tout ça, de revenir à ce premier amour. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais... c'est bon, je vais faire assez rapide. Donc, j'aimerais prier pour que Dieu puisse nous aider dans ce temps de transition parce qu'il a tellement de belles choses pour nous. Et Seigneur, je te bénis, Jésus, parce que tu nous appelles, nous aussi, à conquérir de nouveaux territoires. Tu as un pays promis pour nous. Tu as des promesses, des projets, des choses pour nous individuellement, pour nos familles, pour nos couples, pour nos villes, pour nos familles élargies, pour nos amis, pour nos quartiers. Tu as des promesses en réserve, Jésus. Et je crois que nous allons rentrer dans l'accomplissement de ces promesses, Seigneur. Et je prie que tu puisses nous aider, chacun personnellement, individuellement, à nous tenir prêts, à nous préparer, qu'on puisse raccourcir le temps de désert dans lequel nous sommes, que nous ne nous perdions pas pendant 40 ans comme le peuple d'Israël s'est perdu, mais que vraiment par notre attitude de cœur, nous puissions raccourcir ce temps, que par notre attitude de cœur, nous puissions rapidement passer d'être libérés à être délivrés, à être entièrement consacrés à toi, à être nous laisser purifier par toi pour voir les miracles et les prodiges que tu vas faire au travers de nous. Seigneur, merci parce que tu as choisi de nous utiliser pour être partenaire avec toi dans ce que tu vas faire, Seigneur. Tu aurais pu faire tout seul, mais tu as choisi de travailler avec nous. Et on veut te dire oui, on te dit d'accord. On te dit oui, on est prêt à refuser les compromis. On est prêt à nous laisser purifier par toi. On est prêt à te faire totalement confiance. On est prêt à t'obéir pleinement. On te dit oui, Seigneur. On veut vraiment nous laisser utiliser par toi parce qu'on sait que ce à quoi tu nous appelles, que la saison dans laquelle nous rentrons est juste merveilleuse. Merci, Seigneur. Merci Jésus parce qu'on sait que tu nous as déjà accordé la victoire. On sait que tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu des miracles et des prodiges. et on veut se laisser utiliser par toi, Jésus. Vraiment, purifie-nous, sanctifie-nous, montre-nous tout ce qui nous tient encore captifs dans nos vies, tout ce qui nous empêche d'être prêts pour voir ta gloire, d'être prêts pour voir, pour te voir conquérir les territoires devant nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.